Avoigny. Cette semaine, Céline Lauzen rencontre Bernard Stiegler. Ce soir, du plomb dans l'âme.
Bernard Stiegler, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous recevoir chez vous. On est ici au beau milieu de la campagne, quelque part dans le département du Cher. Vous avez une très belle maison aménagée dans un grand moulin. On est ici dans le salon et littéralement entouré par la nature et le silence. Alors Bernard Stiegler, vous êtes philosophe, docteur de l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez fondé le groupe de réflexion Ars Industrialis. Vous dirigez l'Institut de recherche et d'innovation au sein du Centre Georges Pompidou. Vous êtes un peu un intellectuel autonome qui s'est construit hors des murs académiques. Votre esprit s'est façonné via le Parti communiste, puis dans une période ascétique en prison. Puis vous allez réellement devenir philosophe avec comme concept central celui de la technique. Dans votre corpus, vous étudiez les sociétés sous le prisme de l'évolution technique, la pierre taillée, les machines, l'automatisation, le web, le numérique. Et selon vous, la technologie est à la fois un treuil et un piège. Elle peut être curative ou bien toxique. En tout cas, elle façonne l'humain dans sa praxis et dans son être. Votre thèse, bien connue, pose que l'humanité est en disruption, c'est-à-dire dans une phase où elle a outrepassé un stade d'aliénation consumériste. Au fil des décennies, vous avez construit un formalisme sémantique très codifié, voire sibyllin pour exprimer vos théories, parfois jugées trop idéologiques. Pourtant, c'est bien avec clarté et logique que vous disséquez les ressorts de la décadence humaine à l'ère de l'anthropocène. Vous exposez comment le consumérisme numérique et technologique a dégénéré la société en érodant ce qu'elle a de plus précieux, la capacité à éprouver du désir, désir de connaissance, de création, d'amour au sens large. Et parmi les discours sur la déchéance, le vôtre sonne comme un appel à une thérapie collective, contributive, où l'on devrait comprendre qu'il faut dompter nos pulsions, transformer nos énergies en investissement, afin de refonder un modèle de société libéré de l'entropie, qui est un principe physique qui amène fatalement au chaos. Bernard Stiegler, vous qui critiquez le consumérisme par la télécratie, les médias analogiques puis numériques, vous mentionnez pourtant que c'est par la télévision que vous avez forgé votre culture première dès l'enfance. Est-ce qu'il faut y voir un paradoxe ou pas du tout ?
Si, c'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe qui est caractéristique, constitutif de l'humanité. Si par exemple les êtres humains ont souvent, presque toujours, des religions, seule la société contemporaine n'est pas basée sur la religion. Toutes les autres sociétés étaient basées sur la religion, plus ou moins. C'est parce que il faut faire avec ce paradoxe. Voilà. L'homme est toujours en train de s'auto-menacer, et pour surmonter cette situation, eh bien, il y a des, moi j'appelle ça des thérapeutiques, qui se développent. Autrefois, le chamanisme, la magie, ensuite des formes diverses liées aux croyances religieuses, mais aussi aux mythologies qui sont pas toujours des religieux. Pour moi, par exemple, les mythologies grecques, ce sont pas des religions à proprement parler. Je parle de la Grèce ancienne, et aux formes de monothéisme ou de croyances religieuses comme on trouve en Extrême-Orient, qui sont pas exactement le monothéisme, mais qui, même si Bouddha, comme dit Jean-Luc Nancy, par exemple, peut être considéré comme une figure de monothéisme. Alors, aujourd'hui, la télévision, comme vous l'avez dit, effectivement, elle m'a éduqué en partie, comme une partie de ma génération. Beaucoup, beaucoup des gens de mon âge ont découvert le cinéma grâce à la télévision. Quand j'étais petit, il n'y avait pas de salle de cinéma, mais par contre, j'avais une culture de cinéma classique assez formidable, je crois. Après coup, je me dis qu'elle était assez formidable parce que j'ai enseigné jusqu'à l'année dernière à l'université, mes étudiants... J'avais donné un cours sur le cinéma, ne connaissais à peu près rien du cinéma classique. Ce qui est très ennuyeux quand même, quand on veut parler du cinéma contemporain, si on ne connaît pas du tout le cinéma classique, c'est un peu problématique. La télévision, donc, m'a donné ça. Et d'ailleurs, je dois vous dire, parce que Il y a quelques années, Frédéric Mitterrand était ministre de la Culture, et quelqu'un de son cabinet, qui avait travaillé avec moi un rapport de l'UNESCO, lui a suggéré de m'inviter au Festival d'Avignon pour une rencontre à laquelle il participait, et où il m'a demandé de faire une conférence avant sa propre intervention d'ailleurs. C'était assez étrange comme dispositif, très inhabituel. Et comme il était ministre de la Culture et que moi-même j'ai eu un grand intérêt pour l'audiovisuel public, y compris pour France Culture, je lui ai projeté un film de Pierre Dumayet, c'est pas un film, c'est une émission de télévision qui s'appelait Lecture pour tous, qui datait de 1958, je crois, dans lequel Georges Bataille présentait la littérature et le mal, à une heure de grande écoute. Et je lui ai dit, vous voyez, monsieur le ministre, on peut faire des choses très bien avec la télévision. Voilà.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui?
Ah, ça a été totalement laminé aujourd'hui. Enfin, il existe encore des choses bien. Arte fait des choses bien. Et d'autres chaînes, y compris la BBC, en Allemagne aussi. Mais c'est très, 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 très difficile aujourd'hui de faire des choses bien. Vous avez mentionné mon passage au sein du Parti communiste français. Moi, j'étais fasciné au sein de ce parti à l'époque par l'importance qu'il accordait à la culture et au savoir. Et s'il y a eu, par exemple, entre 1947, c'est la création de la télévision française, et disons 1970, la possibilité de découvrir le cinéma mais aussi le théâtre. J'ai aussi découvert le théâtre à la télévision. J'ai découvert Eschyle, les Perses, j'ai découvert Don Juan de Molière, etc. Et puis beaucoup d'autres choses.
Vous avez découvert tout ça, mais avec un guide, vos parents, votre mère?
Oui, bien sûr, mais il y avait une politique. Et il y avait un compromis, bien connu d'ailleurs, souvent dénoncé aujourd'hui, entre les gaullistes et les communistes. Mais ce compromis était incarné par Malraux d'ailleurs, ancien communiste, qui était ministre du général de Gaulle. Et voilà, la télévision était faite pour que, disons, tout le monde puisse accéder à la culture. C'était d'abord ça le but. Alors évidemment, on a dit, et c'était vrai aussi, en 68 en particulier, que c'était aussi l'instrument du général de Gaulle pour dominer la France, et c'est tout à fait évident.
Éduquer les masses.
Éduquer les masses, mais aussi les contenir, enfin les diriger, parfois de manière assez autoritaire. On sait bien, tout le monde, non, aujourd'hui on ne sait plus du tout ça, mais à l'époque, Léon Zitrone, par exemple, qui était un journaliste bien connu, voilà, il s'était mis en grève en 68, quand De Gaulle a appris ça, il a piqué une colère, et Zitrone en a pleuré, voilà. Il y avait des relations entre le pouvoir, les journalistes et la télévision très compliquées, mais tout est toujours très compliqué dans les affaires humaines, de toute façon, quelle que soit l'affaire en question. Même la cuisine, c'est très compliqué.
Alors, on va revenir à vous. Vous êtes né en 1952 dans l'Essonne, à Villebon-sur-Yvette. C'est d'ailleurs un endroit qui est situé sur la nouvelle tech française, entre Polytechnique, l'Université Paris-Sud. Mais vous n'allez pas y rester longtemps, vous allez grandir à Sarcelles. Mm-hmm. Comment vous décririez ces années d'enfance?
Ce sont des années de rêve. Bon, c'est souvent le cas de l'enfance en général, parce que peut-être qu'en plus on a tendance toujours un peu à embellir. Après coup, mais ce sont des années de grande paix. Pour moi, ce sont des années de rêve. J'ai un jardin, j'ai un petit coin où je peux faire du jardin. C'est en pleine campagne. C'est un lieu aussi de la radio, d'ailleurs, parce que c'est l'émetteur de Villebon-sur-Yvette. À cette époque-là, c'était un des émetteurs de la radio nationale.
D'ailleurs, votre père était ingénieur.
Il était d'abord électricien. L'ORTF. Il a commencé comme électricien. Il travaillait sur les groupes électrogènes à cette époque-là de cet émetteur. Après, il a fait des études internes. Il n'a jamais passé le diplôme d'ingénieur. Il est devenu ce qu'on appelle technicien supérieur et finalement ingénieur maison, mais sans avoir passé un diplôme d'ingénieur. Oui, ce sont des années, de grande paix, en fait, où tout va bien, plus ou moins. C'est pas la richesse, parce que précisément mon père n'était qu'un ouvrier à ce moment-là et ne gagnait pas beaucoup d'argent, ma mère ne travaillait pas, nous étions une famille nombreuse.
Vous aviez quatre frères, il me semble.
Oui, quatre frères, oui. Ouais. Et nous sommes restés là jusqu'en 1958. Voilà, nous avons quitté ce lieu à l'automne 58, au moment où une transformation politique importante s'est opérée, où justement le général de Gaulle est apparu. Juste avant que je ne quitte, que nous ne quittions d'ailleurs cet endroit, c'était la guerre d'Algérie à cette époque-là, et il y avait des menaces, je ne sais pas si elles venaient de l'OAS ou du FLN, mais en tout cas, d'un seul coup, cet émetteur a été envahi de soldats. Ça a été pour moi une énorme surprise de voir des gens en treillis avec des mitraillettes et tout ça. Parce qu'il y avait, alors là, d'un seul coup, je découvrais que il y avait un monde en dehors des vaches et des pommiers, voilà, qui avait l'air plus compliqué que je ne l'avais imaginé. Voilà.
Votre mère était femme au foyer, mais elle a quand même travaillé.
En fait, ma mère, elle était sténodactylo. Elle avait une formation de sténodactylo. Elle a effectivement passé de nombreuses années à élever ses enfants. Et elle a repris un travail lorsque je devais avoir 12 ans, à peu près, 10-12 ans.
À l'école, ça se passe plutôt bien. Vous êtes un bon élève, voire un très bon élève. Et puis au lycée, ça se corse. On est en mai 68. L'année 68 est compliquée.
Ça s'est corsé avant, en fait. J'étais un bon élève parce que ma mère s'occupait énormément de ses enfants. Je suis arrivé à l'école le cours préparatoire.
En CP.
Le CP, ouais. Je savais lire déjà. Et donc, évidemment, ça m'a donné de l'avance. Je suis rentré d'ailleurs avec un an d'avance. Donc oui, les premières années école et les premières années de collège, jusqu'en quatrième, disons, ça marche très 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 bien. Et à peu près dans tout, parce que j'aime bien tout. Ça commence à aller moins bien en quatrième. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe en quatrième?
Bah, il se passe d'abord que, disons que la vie à Sarcelles, c'est quand même pas si simple. C'est moins simple, en tout cas, que de vivre en pleine campagne Villebon-sur-Yvette. Villebon-sur-Yvette qui, aujourd'hui, est un plateau industriel absolument abominable. D'ailleurs, je le signale en passant, parce que n'a plus aucun rapport. Voilà. Tout ça s'est totalement transformé. Il se passe aussi que mes parents sont en train de se séparer, donc c'est un peu compliqué. Il se passe que, disons, je découvre des amis de mon frère aîné, au départ, qui sont des gens assez formidables, qui m'ont beaucoup formé aussi, dont un en particulier qui s'appelle Alain Bidot, qui est une exception de la bande, parce que ça devient une petite bande, très sage d'ailleurs, hein. À cette époque-là, nous sommes encore des gens très sages, mais, bon voilà, c'est. Alors moi je suis un peu tiré par mes aînés, parce que je suis le plus jeune, mon frère a 6 ans de plus que moi, et je suis, avec des adolescents, ou presque des adultes déjà, beaucoup plus grands que moi. Et je commence à avoir une vie un peu noctambule, voilà, plus ou moins.
Votre mère vous laissait faire aller
travailler avec votre... Non, ma mère ne laissait pas faire, mais ma mère commence à avoir beaucoup de problèmes personnels. Il m'arrive de rentrer tard, de plus en plus tard en fait, assez alcoolisé. Ma mère sait ce que c'est qu'être alcoolisé, parce que malheureusement...
Vous avez 15 ans là.
Ouais, j'ai même moins de 15 ans, j'ai 14 ans. Elle avait un frère aîné qui était alcoolique, donc qui était d'ailleurs mort du délirium tremens. C'était sa hantise en plus, vraiment, l'alcool. Bon, enfin, toujours est-il que c'est comme cela. Et puis par ailleurs, au collège, disons que quand j'ai fréquenté le collège, j'ai été assez frappé une sorte de déficit professoral. J'ai vécu, c'est le baby-boom, hein, les années dont je vous parle. Donc d'un seul coup, le gouvernement français a demandé à des instituteurs de devenir des professeurs. Et donc, moi j'ai eu des profs qui m'enseignaient l'anglais, mais ils ne parlaient pas anglais en fait. Ils n'avaient jamais eu de formation, ils parlaient très mal anglais, ils m'ont même appris des choses absolument fausses. Voilà. Pendant très longtemps, je croyais que pour dire « je vais manger », I shall eat, je disais ça, donc je comprenais pas la différence entre shall et will, voilà, etc. Je dis pas du tout ça pour accabler ces gens qui étaient malheureusement, ils avaient à faire face, il fallait faire face.
Vous voulez dire qu'il y avait un manque d'encadrement à la fois dans le milieu éducatif et au niveau parental?
Non, je veux dire d'abord que là je parle pas de... Non, je parle de... Il y avait un niveau, disons, de formation des enseignants qui était nettement moins bon. et qui fait que moi j'étais un petit peu, j'ai toujours été un petit peu, je sais pas comment dire ça, j'avais pas ma langue dans ma poche, donc j'étais pas insolent, je crois, hein, je crois que j'étais pas dans ce genre, j'étais pas provocateur non plus, mais en revanche je disais les choses comme je les pensais. Et un jour il m'est arrivé, en particulier en quatrième, donc un problème avec ma professeure principale, qui s'appelait Madame Risbeck, qui était prof de maths également, et qui me donnait un cours, qui nous donnait un cours de géométrie sur la démonstration du théorème de Thalès. C'était basé sur le manuel Le Bossé-Emery. Et elle m'a demandé, elle fait venir au tableau, elle m'a demandé de démontrer le théorème, et j'ai fait une démonstration, elle a contesté ma démonstration, et moi je me suis opposé à elle en disant, mais pas du tout, c'est vous qui comprenez pas. Et je lui ai dit, je vais écrire aux auteurs du manuel, puis on verra qui a le dernier mot. Et là, elle m'a fait redoubler ma classe. Ce qui était pour moi une catastrophe absolue. Parce que je trouvais que mes camarades de classe étaient déjà vraiment gamins, quoi. Je m'ennuyais, en fait. Et donc, me faire redoubler, pour moi, c'était... Et alors là, c'était la catastrophe. C'était injuste, c'était... Enfin, rien ne pouvait m'arriver de pire à ce moment-là. Donc, j'ai eu un... Tout à coup, j'ai complètement décroché. Je ne m'intéressais plus du tout à ce qui se passait au collège. Je croyais plus du tout, en fait. Je croyais plus dans les profs et tout ça. Ce qui était une erreur, parce qu'en plus, il y avait certains profs qui étaient très bons et très bien. Enfin, voilà. Donc, il y a eu ça. Il y a eu par ailleurs, je dirais pas qu'il y avait un manque d'encadrement parental, mais, parce que c'est pas tout à fait le cas, mais ma mère était toujours très soucieuse de ce qui nous arrivait. Mais par contre, elle était un peu débordée par sa situation affective, disons, un peu difficile. Et tout ça était dans le foyer, comme on dit, foyer familial. Il y avait quelque chose qui tournait plus très rond, quoi. Voilà. Et à partir de là, moi, bon, par ailleurs, j'ai découvert, avec cette période, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un des amis de mon frère qui s'appelait Alain Bidot, était un petit peu différent de nous, parce qu'à la différence de la plupart des jeunes gens qui habitaient à Sarcelles, il avait fait une classe préparatoire, il était plutôt très brillant, il avait reçu des cours de philo de Jean Marcenac, qui était un poète par ailleurs assez connu à l'époque, et un prof de philo excellent. Et d'un seul coup, il nous a fait découvrir, à mes frères et à moi, surtout à mon frère aîné et à moi, à la fois la poésie, je sais pas, de Rimbaud, de Baudelaire, mais aussi des surréalistes, la littérature, et aussi un peu la philosophie. Voilà. Lui, par exemple, était à cette époque-là, il était surtout sartrien. Voilà.
Mais de quelle manière il vous donne des livres, il vous fait des cours, il vous... Enfin, des cours informels.
Surtout, mais... Non, il nous donnait pas du tout cours, il nous recommandait de lire des choses, il nous parlait tout simplement. Et petit à petit, nous nous mettions... à lire des poèmes. Mon frère les mettait en musique. Mon frère aîné, qui s'appelle Dominique, il faisait des musiques sur toutes sortes de poèmes. Baudelaire, Apollinaire, Tristan Tzara, certaines. Et donc, nous développions une culture comme ça. Surtout à l'époque, nous disions surréaliste. Voilà, c'était ça qui nous impressionnait le plus. Et ça, ça a été... Alors, en disant ça, ce que je veux dire, c'est que à cette époque, j'ai commencé à consommer pas mal d'alcool. Mais pour nous, consommer de l'alcool, c'était une pratique littéraire, en fait. Nous nous référions à Arthur Rimbaud, le dérèglement de tous les sens. Voilà. Donc, nous légitimions ces pratiques alcooliques, après, un petit peu avec d'autres choses. Comme
vous voulez dire que c'était naturel, ça s'inscrivait dans l'activité du poète
Ça s'inscrivait dans une certaine conception de la modernité, voilà, de faire l'expérience de la modernité au sens baudelairien et rimbaldien, voilà, de la poésie comme ce qui vient bousculer en fait les normes. Voilà. Et ça passait à ce moment-là pour nous, ça c'est assez courant que les jeunes gens pratiquent un peu les excès alcooliques, bon, surtout dans les milieux populaires, surtout à Sarcelles, parce que quand vous vivez dans ce qu'on appelait à l'époque, je crois qu'on appelait encore ça comme ça, un grand ensemble, qui est totalement dénué, je dirais, de singularité, de, d'histoire, etc. Mais l'alcool donne du relief à ce qui n'en a pas. Donc, alors il y a autre chose qui joue un rôle très très important, c'était la musique. J'avais deux grands amis, c'était Alain Bidot, dont je viens de parler, mais aussi Sada Ndiaye, qui était un Malien, qui était passionné de musique, grâce auquel nous avons découvert mon frère aîné, qui lui-même est devenu un spécialiste du jazz, nous avons découvert le jazz moderne. Voilà. Nous passions des soirées entières à écouter du jazz, à lire de la poésie et à picoler.
Dans cette atmosphère, vous allez quand même poursuivre jusqu'au lycée. Vous allez être expulsé. Mais pour autant, vous n'allez pas perdre la motivation de découvrir, vous instruire, parce que vous entrez au PCF, vous découvrez des auteurs, vous êtes toujours stimulé intellectuellement, et peut-être que vous continuez à côtoyer ces amis-là en augmentant la...
C'est une longue histoire compliquée. Entre, disons, 1966 et 1968, il se passe beaucoup de choses. D'abord, je quitte Sarcelles parce que mes parents déménagent. Mes parents sont toujours pas séparés. Mon père a une double vie, mais ils continuent à vivre ensemble. Et donc mon père se rapproche de son travail, il travaillait à Meudon, au studio de Meudon, et c'était pas des studios, mais enfin, peu importe, et donc nous installons à Sèvres, moi je change complètement de milieu, là tout d'un seul coup Sèvres, c'était là où nous étions, c'était plutôt les lieux bourgeois de Sèvres, avec de très 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 belles maisons, tout à fait nouveau pour moi, je découvre une jeunesse un peu différente, une partie très prolétarienne, mais aussi une partie très très bourgeoise. Et dans un très très bon lycée qui est le lycée de Sèvres, qui était considéré comme un des meilleurs de France à l'époque. Malheureusement, enfin je dis malheureusement, mais après tout, je commence mes études au lycée de Sèvres, ça commence très très bien, je suis totalement enthousiaste. En plus, il y a un théâtre amateur, je m'inscris au cours de théâtre, et tout va très bien. Mais je reçois une circulaire à un moment donné, le gouvernement a décidé de créer une section A7. A7, ça veut dire bac artistique. Et moi, je faisais de la peinture à cette époque-là. Je faisais aussi du théâtre. Enfin, je m'intéressais énormément à la musique, à la peinture, à la littérature et tout ça. Je me dis, bac artistique, c'est pour moi. Donc, je change de lycée. Je vais au lycée Claude Bernard, dans le 16e arrondissement. Et là, je découvre, eh bien, une partie des élèves du 16e qui sont... Disons, ils sont membres d'Europe Action, ils sont pour l'Algérie française, ce sont, on appellerait ça aujourd'hui des fachos, voilà. Et moi je suis contre l'Algérie française, et donc je vais me politiser en fait comme ça. Je suis pas rentré au Parti communiste au départ, je suis rentré dans des mouvements d'extrême gauche, et je dirais surtout pour m'opposer à l'extrême droite, voilà. C'est essentiellement comme ça que les choses se sont faites. Ensuite, il y a eu 68. Alors, en 1967, donc je fais ma rentrée d'abord au lycée de Sèvres, puis deux mois après, je vais au lycée Claude Bernard. Au lycée Claude Bernard, je rentre dans un truc qui s'appelle lutte ouvrière, donc qui est un truc trotskiste. Je me politise à toute vitesse. En février ou mars, il y a un truc qui s'appelle le comité d'action lycéen, dont nous faisons partie dans ce groupuscule. Et un des fondateurs de ce comité d'action lycéen est expulsé du lycée Condorcet. Il y a une manifestation en face du lycée Condorcet, à la gare Saint-Lazare. C'est en fait la vraie première manif de 68. Et c'est pas en mars à Nanterre ou à la Sorbonne en mai, c'est en février à Condorcet. Et là, il y a une manifestation d'un peu près un millier de lycéens. Et nous renversons le quart de police. Voilà. Ça, vous le verrez dans un film qui est de Romain Goupil, que je n'aime pas du tout, ce monsieur d'ailleurs, parce que je trouve qu'il a très mal évolué, mais il était déjà passionné de cinéma, il avait une caméra Super 8, il a filmé tout ça. Et c'est dans ce film qu'il a fait où il parle de 68. Donc, je m'étais politisé comme cela, et il se trouve qu'en 68, au moment du tout début de 68, à la Sorbonne, là où... Au moment où les CRS ont encerclé la Sorbonne et commencent à tirer les grenades lacrymogènes, eh bien moi, grâce à Marcel Bluval, j'avais découvert Molière et Don Juan, et je suis en train d'acheter d'occasion les offres complètes de Molière chez Gilbert Jeune. Voilà. Et d'un seul coup, j'entends des grenades lacrymogènes qui explosent, donc je me retourne et je vais à la place de la Sorbonne. Et 68 est en train de commencer. Et évidemment, à partir de là, pendant 3 semaines, je vais plus quitter les rues de 68. Voilà. Ce qu'on appelle, en particulier, la barricade de la rue Gay-Lussac, puisque c'est là que je vais m'installer.
D'accord. Donc, vous allez vous extraire du parcours scolaire. Vous passerez jamais le bac, finalement.
Oui, 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 tout à fait.
Ce qui vous empêchera pas, par ailleurs, de poursuivre d'autres études plus tard.
Oui, en effet. Alors, je me déscolarise totalement. De toute façon, je suis en conflit avec l'administration. Même avant 68, ça avait déjà commencé. La vie prend un tour tout à fait nouveau. Un an et demi plus tard, ma première fille naît. Donc, je suis un père très, très jeune. Et je vais devoir aller travailler.
Est-ce que c'est à cette période-là où vraiment vous avez le sentiment de toucher vraiment la philosophie à travers ces lectures? Vous avez parlé de votre ami avant, mais
non,
en vous politisant,
non.
Est-ce que la vous philosophie... cristallisez quelque chose de plus profond que ça?
Oui, j'ai lu. Alors après, je suis passé des mouvements gauchistes au mouvement communiste, au Parti communiste français, parce que j'avais le sentiment qu'en fait, ça avait été une manipulation, cette histoire, que les étudiants avaient été totalement manipulés, ce qui me sera d'ailleurs confirmé plus tard par un policier.
Manipulé par qui? Pour faire quoi?
Par le ministre de l'Intérieur, Monsieur Marcellin, qui savait très bien jouer. C'est un CRS qui me l'a expliqué ensuite, un CRS qui me gardait à l'hôpital quand j'étais en prison et qui m'a dit, mais toi, tu devais être en 68 à Paris, moi j'étais CRS, donc on était des deux côtés de la barricade et je vais t'expliquer comment on vous manipulait. Donc il m'a bien expliqué tout ça. Donc moi j'ai eu cette conviction que 68 était en fait une grande naïveté, disons, politique. Et c'est pour ça que je suis entré au sein du Parti communiste français. Et là, à ce moment-là, bon, j'avais déjà commencé à lire un peu Marx et Lénine, parce que dans les mouvements groupusculaires, on faisait ça. On prenait d'ailleurs les éditions de Pékin, pas les éditions de Moscou, parce qu'on était anti-stalinien. Donc je suis rentré chez les staliniens. J'ai fait une école du parti, comme on disait à l'époque. Donc là, j'ai un peu lu Marx et Hegel aussi. Mais j'avais pas de culture philosophique, vraiment. J'avais envie d'en avoir une, mais c'était très très difficile. J'avais une culture littéraire.
Est-ce que c'était une première bifurcation, pour reprendre un de vos termes?
Je tâtonnais, je papillonnais. Je savais pas si je voulais être musicien, si je voulais. Je voulais, à un moment donné, je voulais. J'ai essayé d'apprendre la musique, je jouais du saxophone. Je savais pas si je voulais être peintre. Je me vivais un peu au jour le jour, en fait. Hein, voilà. Et surtout, j'essayais de payer mon loyer. Ce qu'à un moment donné, j'arriverai plus à faire. D'ailleurs, je vais être obligé de quitter mon appartement parce que je suis expulsé, tout simplement. Voilà. Mais donc, je bricolais. C'est plus tard que les choses ont pris une tournure plus nette.
Et on parlera de ça demain. Merci Bernard Stiegler. Bonsoir.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Céline Lauzen avec Bernard Stiegler. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.